Bonjour. Le mystère du mal est sans nul doute une des questions les plus difficiles qui nous soient posées à nous les êtres humains. Et le mal, ce qui nous empêche d'être pleinement et durablement heureux. L'évangile, c'est vrai, nous fait aspirer au bonheur, mais les réalités souvent dramatiques des choses d'ici-bas nous déconcertent et nous font nous tourner vers Dieu pour lui demander ce que lui, il pense du mal, lui qui semble laisser advenir le mal sans intervenir, ou bien si peu. Il y a bien des années, la fille d'un journaliste a écrit la première histoire du goulag des camps de concentration soviétiques. Elle l'a fait parce que son père, lors d'une rafle au hasard, fut envoyé en Sibérie où il passa 23 ans. La conclusion de son livre disait ceci. « Vous pensez sans doute que j'ai écrit cela pour dire « plus jamais ça ». Eh bien, détrompez-vous. J'ai écrit cela pour affirmer haut et fort que ça arrivera encore. Parce que le problème, ce n'est pas une mauvaise philosophie, une idéologie totalitaire ou une politique d'oppression sans scrupules. Le vrai problème, c'est le cœur de l'homme. Alors, mes amis, il faut le dire d'emblée, la seule réponse au mal, c'est la conversion permanente de l'être humain. C'est ce que Jésus disait en Luc chapitre 13, les 5 premiers versets. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ?» parce qu'ils ont souffert de la sorte. Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous de même. Ou encore, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Bien non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous pareillement. » Fin de citation. Voilà pour aborder la question du mal. Je m'appuie aujourd'hui avec reconnaissance sur ce qu'a écrit avec beaucoup de lucidité spirituelle le théologien français Henri Blocher dans son livre « Le mal et la croix ». La pensée chrétienne aux prises avec le mal. Alors, d'où vient le mal? Et qu'avaient fait ces Galiléens dont Pilate a mêlé le sang au sacrifice pour mériter une telle fin tragique? Et ces 18 victimes, rappelle Jésus, de l'effondrement de la tour de Siloé, qu'avaient-elles bien pu faire pour finir ainsi? Qu'est-ce qu'ont fait ces victimes pour mériter de finir ainsi? Et mes amis, ce sont aussi des questions que l'on peut se poser aujourd'hui face à des tragédies auxquelles on assiste impuissant. Qu'a bien pu faire telle ou telle personne pour subir une telle maladie ou un tel accident, une telle fin tragique? Notre raison, c'est vrai, a besoin de réponses. On veut des réponses à nos pourquoi, et les questions sont sans fin. Dieu est-il derrière de telles tragédies? Pourquoi les permet-il? Et puis, y aurait-il dans le Dieu de la Bible une face sombre qui souhaiterait le mal de l'humanité? Ou dans ce monde, y a-t-il une sorte de principe rétributif qui ferait que quand on commet le mal, on subit des maux à la mesure de ce que l'on a commis? Ou bien encore faut-il comprendre que cette tragédie qui était arrivée à ces Galiléens où cet effondrement sur 18 personnes de la tour était utile pour faire avancer les choses. Par exemple, pour favoriser une prise de conscience de la nécessaire révolte contre l'occupant romain, ou le fait que l'effondrement de cette tour permettrait une reconstruction plus belle qu'avant. En d'autres mots, ce mal permettrait-il la venue d'un plus grand bien? En fait, ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est que Jésus ne se lance pas dans une explication sur l'origine du mal subi par ces personnes. Il n'invoque nullement tel ou tel péché, telle faute qu'auraient commis ces Galiléens ou les victimes de la tour de Siloé. Non, Jésus invite à une conversion personnelle, à un changement de vie, à un changement d'orientation, à un retour à Dieu. Mais hélas, on le sait, ces questions, d'où vient le mal? Qu'est-ce que le mal est? Le mal jusqu'à quand? Ou bien, autre question, Dieu se serait-il trompé dans sa création en permettant à la réalité du mal d'exister? Hélas, nombre de chrétiens se sont montrés moins prudents que Jésus. Ils ont voulu à tout prix apporter une réponse à la question, je le dis, insoluble de l'origine du mal. Certains ont ainsi développé une solution marquée par l'optimisme. En bref, leur solution consiste à atténuer et à gommer les contours les plus scandaleux de la réalité du mal. Le mal, disent-ils, comme phénomène, est intégré dans l'ordre des choses. Il est, par exemple, simplement lié à notre finitude, au fait que nous soyons limités, vulnérables. Et puis, on a trop entendu certains dire que l'expérience de la souffrance était nécessaire pour que nous puissions développer certaines qualités, la compassion envers les plus faibles ou la persévérance. Le principal reproche que l'on peut faire à cette manière de voir, c'est de sous-estimer le mal. Non, le mal ne fait pas partie du système, ni ne permet de faire advenir un bien. Et nous pouvons l'affirmer parce que la Bible a le mal en horreur. Dieu ne recourt pas au mal pour faire advenir le bien. C'est vrai qu'il peut l'utiliser de manière indirecte, mais jamais le susciter de manière directe, parce que Dieu est bon, parce qu'il est amour. Maintenant, certains ont eu recours à la notion de liberté humaine pour donner une explication au mal. Et en fait, ils ont mis en place une stratégie où Dieu est exonéré du soupçon de complicité avec le mal, en mettant en avant la liberté humaine comme cause première du désordre. Leur solution par la liberté tient compte de la création bonne de Dieu, mais disent-ils, si l'on croit à la liberté humaine, une créature en fait ne serait jamais libre si elle n'avait pas la possibilité de faire le mal. Leur position respecte la bonté du Créateur et de sa création. Elle respecte aussi la radicalité du mal comme mal. Mais Dieu, dans cette perspective à les écouter, Dieu, dès l'origine, a dû compter avec un facteur indépendant de lui. Sa souveraineté absolue n'est donc plus prise en compte. Enfin, une autre solution a été d'affirmer que le mal est présent dès l'origine du monde comme une puissance qui s'oppose au bien. Ce mal s'appelle souvent le non-être ou le néant, et il joue un rôle négatif à côté de Dieu. Ici, le mal n'est pas vraiment reconnu comme mal, il n'est pas étranger à la création bonne de Dieu, mais il fait plutôt partie d'elle tout en permettant un mieux lorsqu'il est absorbé comme négatif. La souveraineté du Seigneur est donc également là mise à mal, puisqu'elle devrait coexister avec un principe à côté de Dieu. Dès lors, mes amis, pour parler de la vision biblique du mal, le théologien Henri Blocher recourt à la lettre majuscule T, et il sépare les trois éléments graphiques de cette lettre et tient à dire par là qu'il y a entre le tronc vertical de la lettre T et ses deux branches horizontales à leur tête, trois affirmations à tenir ensemble pour appréhender de manière pertinente et biblique la réalité du mal dans une perspective évangélique. Blocher présente alors trois affirmations, à savoir que Dieu est souverain, ensuite que le mal est mal, et enfin, il souligne la bonté de Dieu et de sa création. Alors reprenons. Premièrement, Dieu est souverain. Oui, la Bible nous montre que Dieu est souverain totalement, radicalement et absolument. Aucune réalité n'existe qui serait de quelque façon indépendante de la volonté de Dieu. Il n'y a pas deux principes qui gouverneraient le monde, le bien et le mal, Dieu et Satan. Non, unique, souverain et maître de tout. Le Seigneur, le Dieu de la Bible, est souverain sur tous les éléments ainsi que sur les événements de l'histoire. Et le Créateur ne se contente pas de fixer les temps. Tout ce qui arrive relève de son vouloir, sa marche globale de l'histoire, jusqu'aux faits infimes, comme nous dit Matthieu 10, les moineaux qui ne sauraient tomber en dehors de la volonté de notre Père céleste, nous dit Jésus. Maintenant, les événements peuvent arriver, c'est vrai aussi, selon leurs conditions propres. Par exemple, lorsque les nuages sont chargés, que les conditions météorologiques changent, eh bien, il y a de la pluie, des orages, de la foudre. Et Dieu intègre dans sa souveraineté également les décisions des êtres libres, leurs actes et leurs conséquences, tout comme les maux, les fléaux et les fautes. Bref, rien n'arrive sans donc faire jamais de Dieu l'auteur du mal. Certains textes bibliques, il faut le dire aussi, n'hésitent pourtant pas, dans certains contextes, à dire que Dieu parfois peut aller jusqu'à mouvoir la volonté des mauvais, et je pense ici à l'endurcissement du cœur du Pharaon lors de l'Exode, ou bien celui d'Hérode lors de la naissance de Jésus. J'en arrive maintenant au deuxième point mis en avant par Henri Blocher. Le mal est mal. Et si l'on reprend l'image du théologien, après le tronc du T, voici maintenant la première branche, à gauche, tout en haut, la réalité mauvaise du mal. La Bible dénonce constamment la réalité et la nocivité du mal. Le mal est mauvais, totalement, radicalement et absolument. De Genèse 3, au début de la Bible, à la fin de l'Apocalypse, les Écritures soulignent la malignité du mal, sa nocivité. Et on pourrait citer ici Romains 12, verset 9, « L'amour ne sait pas mentir. Ayons donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien. » Autrement dit, le mal n'a rien à voir avec Dieu. Il lui est étranger. Et les disciples de Jésus doivent afficher la même attitude à son endroit. Quant à Jésus lui-même, il dénonce les religieux hypocrites et les riches qui exploitaient les pauvres et les démunis de son temps. Bref, c'est avec une sobriété étonnante que la Bible ne se lance pas dans des explications, dans des spéculations où le négatif se révélerait fécond et permettrait de faire advenir une autre réalité. Dans certains récits, on pourrait penser que Dieu permet le mal, mais dans ces récits, le mal est déjà dans le monde. Le Seigneur, en somme, ne fait que le canaliser et l'orienter, et Dieu s'en sert pour agir. Et Dieu peut même changer le mal en bien. Relisez à ce propos la conclusion de Joseph en Égypte, qui retrouve ses frères, lui qui est devenu gouverneur. Ce qui se passe n'atténue pas le fait que le mal est mal et ne présente pas Dieu comme complice de ce qui arrive. Enfin, troisième point, mise en évidence par Blocher, la Bible affirme surtout la bonté de Dieu et de sa création. Ainsi, la seconde branche du T, en haut à droite, c'est l'affirmation du fait que Dieu est bon totalement, radicalement, absolument. Et cette affirmation concerne aussi sa création qui est bonne, comme le refrain du récit de Genèse 1 le rappelle à 6 reprises. Et Dieu, est-il écrit, vit que c'était bon. Et même une 7e fois, après la création de l'être humain, la Genèse dit que c'était très bon. Genèse 1, verset 31. La Bible rejette comme un mensonge diabolique, comme un blasphème, le soupçon que Dieu serait complice du mal. Ainsi, la première lettre de Jean, par exemple, déclare « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Ces trois affirmations bibliques, à savoir que Dieu est souverain, ensuite que le mal est mal et l'insistance sur la bonté de Dieu et de sa création, constituent donc ce T majuscule choisi comme analogie qu'il importe de tenir ensemble dans toute réflexion chrétienne autour du mal, même si cela ne paraît pas toujours évident. D'ailleurs, je tiens à dire que ces trois affirmations ne sont en rien contradictoires. Cela dit, vous pourriez penser que ce rappel biblique ne présente donc pas une réponse rationnelle à l'origine du mal et que nous ne trouvons pas de manière certaine de solution rationnelle à nos questions. Le mystère du mal demeure pour nous, et ce n'est qu'auprès du Seigneur que nous comprendrons ce qui n'est aujourd'hui qu'inaccessible. Nous ne savons ni l'origine, ni le pourquoi du mal, ce qui fait écrire à Henri Blocher que cela reste bel et bien pour nous chrétiens un mystère opaque. Or, s'il est vrai, la sobriété biblique et la modestie de ce fameux mystère opaque constituent néanmoins un avantage. Pourquoi? Parce que ces solutions à ces questions se sont trop souvent révélées inadéquates et même contre-productives dans nos communautés chrétiennes et qu'il est possible d'aborder le mystère du mal avec un autre regard. Oui, avouons-le, certains ont escamoté le scandale du mal et ils ont roulé, pardonnez-moi, comme un rouleau compresseur sur les tragédies du mal subies par beaucoup. Certaines solutions ont fait peu de cas de la souveraineté de Dieu et se sont embourbées dans des explications où Dieu, soi-disant, se serait retiré du monde et ouvrait un espace à un autre principe premier qui n'a en fait aucun sens dans une perspective biblique. Et puis d'autres encore ont entaché la bonté et l'amour extraordinaire du Dieu de la Bible, laissant poindre des doutes sur l'extraordinaire révélation des textes bibliques et de Jésus qui affirme que Dieu est amour. Cependant, je l'ai dit, il demeure que le mal nous pose question. Pourquoi? Pourquoi moi? Et ces interrogations atteignent leur intensité dès que l'on croit en un Dieu unique, infiniment bon, sage, tout-puissant. Impossible alors de ne pas vouloir lui demander la raison du mal et de lui confier ou de lui crier nos pourquoi. S'il est unique, sa responsabilité est engagée. S'il est sage, il ne peut nous renvoyer à l'absurde, au néant. S'il est bon, il ne peut permettre le mal, comme on dit. S'il est tout-puissant, il doit le vaincre. Job, le vieux sage Job, avait cherché sens à son malheur. Et la réponse que Dieu lui a apportée ne l'a pas laissé enfermer dans la nuit d'une énigme irrationnelle et obscure, mais lui a fait comprendre que le mal existe mais qu'il n'aura pas le dernier mot, et que Dieu lui a fixé des limites au sein de son projet de création et de vie, dont le secret n'est pas encore dévoilé. Il ne le sera d'ailleurs que sur la croix, contemplé à la lumière de la résurrection. Bref, Dieu, dès le départ, a été touché par ce qui arrive aux humains, blessé par ce qui les blesse. Et le mystère pascal de la croix nous donne la clé de compréhension des Écritures en nous montrant que Dieu s'est identifié à l'homme souffrant et qu'il est lui la première victime de son projet d'amour dont il assume la responsabilité. Infiniment vulnérable dans sa tendresse et dans son innocence infinie, Dieu souffre de ce qui meurtrit, avilit ou abîme l'homme. Il souffre avec les victimes du péché, de la violence, de l'injustice et du mal, plus encore que les victimes elles-mêmes, parce qu'il les aime plus qu'elles ne s'aiment elles-mêmes. Dieu souffre avec les auteurs du péché et du mal, il les aime eux aussi plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. Mais la souffrance de Dieu n'amoindrit pas sa puissance d'aimer. Au contraire, transpercé par le mal, l'injustice et nos péchés, le cœur de Jésus s'est ouvert et a laissé jaillir pour nous l'eau et le sang, la vie et l'amour. Telle pourrait être la signification du fameux coup de lance donné lors de la crucifixion et que l'Évangile nous rapporte. Aimer rend vulnérable. Dieu, amour, est vulnérable, mais sans faiblesse. Ses blessures ne contredisent pas du tout la toute-puissance de son amour, mais au contraire la révèle au plus haut point. Et disait déjà Ésaïe 53, « C'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Notre amour humain à nous n'admet guère être blessé, mais l'amour que Dieu répand dans nos cœurs par son esprit, dit Paul, supporte tout, excuse tout. L'amour de Dieu porte et enlève le péché du monde. Il est vainqueur du péché, du mal, de l'injustice, de la violence et de la mort. C'est dire que le Dieu de Jésus-Christ a de toute éternité conçu ce projet de salut dont il allait lui-même payer le prix fort. Et d'avance, il acceptait le mal qu'il subirait lui-même de plein fouet et l'amour par lequel il le surmonterait. Alors, mes amis, quelle sera notre conclusion? Eh bien, d'abord, qu'il n'y a pas à expliquer ni à comprendre le mal, mais à se convertir et à le combattre, comme le relève le récit de l'Évangile de Luc au chapitre 13. Et ce combat est rendu possible si l'on tient ensemble les trois éléments du T évoqués tout à l'heure. Le tronc, Dieu est souverain, et les deux branches, le mal est radicalement mal, mais Dieu est bon, il est amour. Précisons ici qu'en grec, le T majuscule, le tau grec, c'est ainsi que cette lettre s'appelle, suggère symboliquement la croix de Jésus. Le tronc ou le poteau de la croix est ainsi affublé en son sommet de ce que les Romains appelaient un patibulum, c'est-à-dire d'une barre transversale à laquelle on accrochait les crucifiés, qui pour nous, reprenant l'image, souligne d'abord la souveraineté entière du Seigneur. Tout est arrivé selon la volonté de Dieu et selon sa préscience. Il fallait donc que les Écritures s'accomplissent, sera-t-il ainsi maintes fois répété dans le Nouveau Testament. Et puis, la croix souligne la réalité du péché et du mal. Puisqu'un juste, un innocent, le Fils de Dieu lui-même, est mis à mort comme un criminel à cause de la haine de ceux qui voyaient notamment l'ordre établi ainsi que ses privilèges mis en cause par l'annonce et les exigences de l'Évangile. Enfin, la croix révèle bien sûr la bonté et l'amour du Créateur pour ses créatures, pour chacun de nous et pour toi aussi. Le Père s'offre lui-même au travers de son Fils comme rançon pour les sauver, et ce faisant, le mal et les puissances maléfiques sont vaincus. Voilà, mes amis, la croix du Christ à la suite de la résurrection est maintenant pour nous le signe de la victoire de Dieu sur le mal. Un signe d'espérance extraordinaire qui ne peut que nous inviter, nous chrétiens, à considérer sa mort et sa résurrection avec reconnaissance et adoration, comme le fondement bouleversant de l'amour de Dieu et de notre foi chrétienne. Soyez bénis. Amen.